je ne crois pas qu'on soit alcoolique en France.
Chronique. Là, il y a toujours une bonne bouteille sur la table, ça c'est évident.
Revue de presse.
C'est pas pour ça qu'on est alcoolique. Invité du jour.
Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé.
C'est tout de suite dans la Happy Hour.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est l'heure de l'Happy Hour. Alors asseyez-vous confortablement, verre à la main, mais attention ici on boit avec modération. D'ailleurs il n'y a même pas de verre sur la table hein, aujourd'hui. Et surtout on parle avec plein de sujets différents pour passer un bon moment des chroniqueurs de choc. Nous avons Mélissa, Thibaut, Eric et Cyril. Et alors l'Happy Hour ce n'est pas que des chroniqueurs évidemment. Notre invitée aujourd'hui Mathilde Sagne, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes une grande sportive, vous avez 26 ans et vice-championne de France de trail court. Le trail c'est de la course à pied, mais en pleine nature, en montagne. Dans cette discipline il y a plusieurs compétitions, selon le kilométrage, c'est ça ?
Oui c'est ça, on va distinguer le trail court, le trail long, l'ultra à partir de 80 km. Et un format plus court et plus nerveux, la course de montagne.
Alors vous faites surtout du trail court, c'est ça aussi ? Ou vous faites toutes les disciplines ?
Je suis pas allée jusqu'à l'ultra. On va dire que je fais à partir de la course de montagne jusqu'aux 60 km.
D'accord.
Et le trail court, c'est une de mes favorites, oui.
Alors pourquoi cette discipline en particulier ? Avant, vous pratiquiez quand même la course à pied sur route ?
Oui, tout à fait. J'ai commencé avec le cross, puis la course sur... piste et sur route du 10 km et du semi-marathon. Puis arrivé en Lozère, il y a 2 ans maintenant, voilà, mes collègues ont commencé par m'indiquer des sentiers pour lesquels, sur lesquels courir. Et j'ai juste vu qu'il y avait des sentiers de tous les côtés dans ce beau département et que c'était... J'ai vite vraiment accroché avec la course en nature et voilà, j'ai continué à m'entraîner sur les sentiers.
Oui, c'est un département qui est assez propice quand même pour le trail.
Oui, tout à fait. Il y a du dénivelé, des sentiers... de la technicité, on retrouve vraiment tout ce qu'il faut pour bien s'entraîner, progresser en trail.
Alors racontez-nous comment vous êtes arrivée en Lozère, parce que du coup ça fait 2 ans, donc c'est assez, enfin c'est encore un peu récent. Dites-nous, vous avez fait un stage d'abord, c'est ça ?
C'est ça, c'est à la fin de mes études, donc j'ai fait l'INSA, une école d'ingénieurs à Toulouse, en environnement et procédés. Et pour faire mon stage fin d'études, il y avait le studio de Lozère Développement, qui proposait un stage sur les énergies renouvelables. Donc voilà, ça m'a de suite intéressée, la thématique du stage. J'avoue, je connaissais pas du tout le territoire de la Lozère. Mais voilà, j'ai vu, moi je suis originaire de Montauban, donc c'était pas trop loin. Et j'ai vu quelques photos sur internet qui m'ont eu l'air sympa, donc j'y suis allée et je regrette pas du tout mon choix.
Vous regrettez pas. Et aujourd'hui, vous travaillez toujours au département. Enfin, vous travaillez pour le département dans le secteur de l'animation sport et nature. C'est ça ? Vous faites quoi exactement ?
Voilà, c'est ça. Donc, je travaille sur... Il y a plusieurs missions. Entre autres, il y a la création d'itinéraires permanents de trails. Voilà, donc c'est mettre en place des sentiers balisés pour permettre aux trailers de pouvoir s'entraîner toute l'année ou aux touristes, voilà, de pouvoir découvrir le territoire en courant. Cet été, j'avais un projet d'animation sur le Mont Lozère. On a fait des activités, voilà, pour les locaux et les touristes. Donc, c'est comment essayer de développer l'attractivité, le tourisme en Lozère via le développement des sports nature.
Ok, du coup, on va revenir un peu sur ce week-end, parce que ce week-end, vous étiez dimanche au trail Lozère Trail, c'est ça ?
Oui, voilà.
À Chanac.
Voilà, parce qu'il se trouve que j'habite Chanac. Donc bon, la course n'était pas vraiment prévue dans le plan d'entraînement, mais ça fait 2 ans que je cours pas mal avec les Salta Bartas, le club de trail de Chanac, et donc j'entends beaucoup parler de cet événement. Et ben, depuis que je suis là avec le Covid, j'avais jamais pu le voir concrètement, donc je me suis dit, ça serait trop bête d'être là sur place et de pas la faire. Donc j'ai fait le 27 km le dimanche matin au Lozère Trail.
Ça s'est bien passé ?
Oui, oui, très bien. L'ambiance était vraiment super. J'ai vraiment beaucoup aimé le départ où on part avec, on suit un tracteur où il y a la Batucada qui est jouée sur le tracteur et on fait d'abord tout autour du village tranquillement tous les coureurs ensemble avant le vrai départ, on va dire, de la course. Donc là, je savais pas qu'il y aurait ça et c'était, ça met vraiment dans l'ambiance. Et après, finalement, on a eu de la chance niveau temps. On est passé entre les gouttes, donc vraiment, ouais, très, très bonne expérience.
C'est le genre de course où tout le monde part en même temps ? C'est mix ou il y a une course féminine, une course masculine ?
Non, là c'est mix. Souvent pour le trail, les départs sont mixtes. C'est vrai, après des fois il y a des sas différents selon temps de passage, il peut y avoir des satellites au début. Mais c'est vrai qu'un, j'irais un des points forts du trail, c'est que c'est souvent des départs mixtes.
Et du coup, vous étiez aussi le week-end, mais alors c'était celui d'avant encore, le 25 septembre en Alsace.
Oui, vous savez tout.
Oui, enfin, on se renseigne en tout cas pour le championnat de France de trail court et vous êtes arrivé deuxième. Alors, racontez-nous comment ça s'est passé.
Oui, ben, du coup, c'était voilà le trail du Petit Ballon en Alsace. Bon, il a fallu un peu plus, quand même faire des efforts pour en arriver, pour avoir cette place. Mais c'est vrai que c'était un objectif de la saison, étant donné que je savais que les deux premiers seraient qualifiés pour le championnat du monde en Thaïlande. Donc je l'avais pas mal comme objectif en ligne de mire. Voilà, je savais aussi très bien qu'il y avait Anaïs Abrié, celle qui gagne, qui était une concurrente vraiment c'est une des meilleures mondiales, top 5 mondiales je pense. Donc je savais que ça serait très très dur d'aller l'accrocher, mais que même faire deux, c'était pas gagné d'avance parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui voulait cette place. Donc c'était une course après un profil assez roulant. Donc ce qu'on dit roulant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de dénivelé comparé à la distance. Donc ça me convenait assez bien et ça a bien marché.
C'était combien de kilomètres là du coup?
27 kilomètres et 1000 mètres de dénivelé.
D'accord, ok. Vous l'avez dit dans une autre interview que c'était un week-end un peu compliqué pour vous. Pourquoi du coup c'était un peu compliqué?
Un week-end. La course, c'est pas une des courses où j'ai eu les meilleures sensations. J'ai eu un peu des problèmes digestifs pendant la course, enfin, des maux de ventre. La raison, j'avoue que je pense peut-être un peu avec le stress, on digère moins bien des choses comme ça, vu que c'est vrai que 2 semaines avant, je faisais 3 au championnat de France de course de montagne, donc, quand on commence à faire des bons résultats, l'entourage, on est un peu plus attendu, donc ce qui met un peu plus la pression. Donc peut-être un peu cette pression à gérer. Puis quand on a un objectif précis, il y a un peu de stress.
Comment on fait du coup pour s'entraîner pour des grosses courses comme ça? Vous avez des points forts, des points faibles qu'il faut peut-être entraîner. Je suppose que vous entraînez pas de la même façon selon les courses en plus.
Oui, voilà, c'est ça. Après voilà, il faut définir quelques objectifs principaux de la saison. Après, il peut y avoir des courses annexes, on va dire, qui vont se greffer en objectif de préparation pour les objectifs principaux. Et après, ben, il va y avoir des séances spécifiques pour travailler l'endurance ou des sorties longues le week-end. Et la semaine du fractionné, donc des changements d'allure. Ça peut être sur plat quand il faut travailler la vitesse, sur des côtes courtes pour travailler la puissance ou sur des côtes longues aussi pour travailler un peu la résistance dans l'effort.
Il y a des choses que vous préférez travailler, est-ce que vous préférez la montée, la descente ou au contraire quand c'est plutôt plat
Oui, moi j'aime bien les séances de côte, c'est sûr, voilà. Après le plat je fais un peu la grimace quand je vois que sur le plan d'entraînement, il y a écrit des séances de plat, mais il y en a besoin pour progresser en vitesse parce que dans toutes les courses, il va y avoir des parties de relance où si on est capable d'aller à 18 à l'heure, ça va être plus simple de tenir un 15 à l'heure pendant longtemps si on peut avoir une pointe de vitesse supérieure.
Alors quand vous entraînez avec qui et où, surtout est-ce que vous avez des chemins que vous aimez particulièrement en Lozère?
C'est vrai que comme je travaille à Mende, quand j'y vais entre midi et deux, là surtout maintenant qu'on rentre en période hivernale, c'est pas mal parce qu'il fait jour. Et donc je vais souvent faire le chemin de Saint-Privat, enfin la croix à l'Ermitage. Voilà, si j'ai des séances de fractionner à en faire à compte, ça va être un peu ma côte favorite, j'avoue que même mon copain se moque de moi que je fais trop d'aller-retour sur celle-là, mais c'est vrai que c'est un peu ma fétiche. Après je vais du coup beaucoup courir aux alentours de Chanac, j'essaie un peu tous les sentiers vers Chanac. On a toujours après des petites boucles favorites où on est habitué, et des fois le week-end on essaye de bouger un peu, on fait des sorties en groupe pour des sorties longues. Et donc voilà, des fois on va dans les gorges du Tarn, un peu sur le Mont Lozère, dans le Val d'Aunès, histoire de changer de paysage sans forcément aller très loin.
Oui, donc vous vous entraînez pas forcément toute seule, donc il y a quand même un esprit d'équipe.
Oui, voilà, même la semaine on s'est essentiellement tout seul pour par commodité on va dire, pour jongler avec les horaires de travail qui conviennent le mieux pour chacun. Mais le week-end on essaye de faire un groupe. voilà, mon copain fait aussi, fait du raid et de la course à pied aussi, du coup, c'est inclus dans le raid multisport. Et il y a toute, toute son équipe du LSN, Loser Sport Nature, qui court aussi beaucoup, donc on s'entraîne souvent ensemble. Et après, évidemment, de temps en temps, avec Blandine et Mathieu, son copain qui court également, voilà, qui sont également sur Mantes, donc quand on peut, on s'entraîne ensemble.
Est-ce que c'est pas un peu difficile, justement, de s'entraîner avec des gens qui seront concurrents quelques semaines plus tard?
Non, parce qu'on est... on se voit pas comme on se voit pas du tout comme concurrente. On va dire sur un départ de course, on est 1000, donc il faut, enfin, d'un côté il faut bien aussi s'entraider et voilà. Après c'est vrai qu'on joue là cette année, on a joué pas mal sur les mêmes courses et mêmes tableaux avec Blandine, mais voilà, on avait toutes les deux un peu le même objectif d'être en équipe de France. Et après, une fois qu'on est en équipe de France, on est plus coéquipière au sein d'une même équipe que concurrente.
Alors tout de suite, on va passer au billet d'humeur d'Eric.
Oui.
Salut Eric.
Oui, bonjour les gens.
Alors aujourd'hui, le thème, c'est les influenceurs.
Oui. Alors, chez nous, nous regardons très peu la télé chez nous. Alors, quand mon fiston veut regarder une émission, nous avons d'âpres négociations et promesses de rangement de chambre, le plus souvent non tenues. Donc sa dernière demande n'était autre que de regarder Danse avec les stars, parce que tu comprends papa, je veux voir Michou. Alors là-dessus, j'éclate de rire en me demandant bien comment mon fiston peut connaître ce personnage avec ses costumes bleus et ses lunettes de la même couleur. Et je me vois dans l'obligation de le préparer à la dure réalité. Michou est mort. Mais non, t'y connais rien. Michou, il fait plein de vidéos sur YouTube, il est trop drôle et il joue à Fortnite. Mais sinon, il est réellement connu, ce Michou? Ben, il a juste 6 millions d'abonnés sur YouTube. Bienvenue dans le monde des célébrités 2.0. Ou 3.0, je sais pas trop. Avant, c'était la télé, justement, qui faisait de la célébrité, des chanteurs, des acteurs ou autres comiques. Maintenant, on peut se fabriquer tout seul, grâce aux réseaux sociaux. Chacun a la possibilité de créer du contenu, rejoindre une communauté, interagir, participer et faire entendre sa voix sur la toile. Nous sommes devenus des acteurs du web. Et de nouvelles figures sont dès lors apparues sur YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Ce sont les influenceurs. Alors concrètement, ils font quoi? Ben... ils influencent. Bon, déjà, les influenceurs détestent qu'on les appelle des influenceurs. Oups, je lis. Parce qu'ils trouvent le terme vide de sens. Bon, là, il faut bien avouer que pour le coup, ils ont raison. Mais cela ne nous dit toujours pas ce qu'ils font. L'influenceur crée donc des contenus, souvent des petites vidéos, sur sa vie, qui n'a souvent rien de plus passionnant que celle de son voisin, ou sur un domaine de prédilection. Il existe ainsi des spécialistes des trucs et astuces... des influenceurs pour les animaux et des animaux influenceurs, comme Norbert le dog. Il y a également un d'influenceur, mais sa spécialité, c'est de faire des vidéos pour se moquer des influenceurs. Bon, en France, nous avons un prêtre sur TikTok qui traite de questions sur le christianisme et l'homosexualité, l'acceptation de son prochain. Eh bien, je ne vous cache pas que sa hiérarchie épiscopale ne voit pas cela d'un très bon œil divin. Alors, à l'instar de ce prêtre, qui ne vit que de l'amour de Dieu. Les influenceurs ne vivent que de l'amour de leurs followers et des pouces en l'air qu'ils reçoivent. Alors, le petit pouce en l'air, c'est un petit pouce vert en bas des vidéos qui veut dire « j'aime » ou « like » en anglais. Plus tu as d'abonnés et de pouces en l'air, et plus tu as de chance d'être démarché par des grandes marques. Le revers de la médaille, c'est que chaque dislike devient leur hantise. Et chaque abonné perdu, un nouveau cheveu blanc. Ou plutôt un bouton cutané, parce que bon, la plupart d'entre eux sortent juste des jupons de leur mère. Du reste... suite à la panne Facebook et Insta hier soir, j'ai eu une pensée émue pour toute cette communauté qui n'avait pas sa dose de pouces en l'air. Ils devaient tous être en PLS, à ne pas confondre avec le groupe de rap, bien sûr. Mais comment gagnent-ils leur vie? Pour Norbert, je suppose qu'il a reçu assez de croquettes pour nourrir 50 générations de petits toutous. Et pour les autres, ce sont les marques qui les démarchent, pour faire du placement de produits. Et c'est comme ça que tu te retrouves le vendredi soir à regarder une émission télé avec Michou, ou que Loser Développement a demandé à des influenceurs de faire la promotion du département. Ouais, les gorges du teint, c'est trop bien! Ou encore que le président a invité Degus à faire des galipettes à l'Élysée. Alors non, rien à connotation sexuelle dans le terme galipette. Ils ont fait des roulades dans le jardin, c'est tout. Et en même temps, c'est peut-être trop. Finalement, c'est comme pour tout. Il y a le bon influenceur et le mauvais influenceur. Le mauvais influenceur, il va faire des vidéos sur sa spécialité, mais bon, voilà, il est mauvais. Alors que le bon influenceur, il va faire des vidéos, mais voilà, c'est un bon influenceur. Regardez une vidéo d'un gars en train de jouer à un jeu vidéo, je dois être trop vieux pour comprendre l'intérêt. Mais je suis tombé sur des vidéos super intéressantes de Nozman ou poisson fécond. Déjà, rien que leur nom, tu comprends que tu vas rentrer dans des sujets que tu détestais à l'école. Ça sent tout de suite les lunettes rondes et le cerveau qui fume. Eh bien, c'est exactement ça. Ou presque. Ce sont des spécialistes de la vulgarisation. Ils arrivent à passionner les plus jeunes, comme les plus vieux, sur des sujets injustement boudés. Comme les sciences, l'histoire, la philosophie. Avec une approche décalée, pleine d'humour et de modernité. Après, avoir des prédilections dans un domaine et être décalé ne fait pas de soi un bon influenceur. Il faut aussi avoir un peu de talent. Ainsi, Léa, qui a été remplacée par Adèle au micro de cette émission. Eh bien, Léa était spécialiste de la bière. Là, s'il y en a plus sur la table. Et totalement décalée, en tenue vestimentaire. Mais heureusement, son influence n'a jamais fait des émules. Quoique, quand je regarde notre nouvelle équipe de chroniqueurs, j'ai bien peur qu'elle ait réussi à partager son mauvais goût vestimentaire.
Oh, j'espère qu'elle écoute pas. Merci Eric pour cette chronique. Alors on va faire une petite pause musicale. On va écouter votre chanson, Mathilde, que vous avez choisie aujourd'hui, qui s'appelle « Come il vento ».
Fresca del mattino che si appoggia sulla pelle, nel cielo ormai si spegne l'ultimo ricordo delle stelle.
I gesti rituali sempre uguali, sempre quelli, i lacci delle scarpe, la fascia stretta tra i capelli.
L'ora sta arrivando, la tensione già palpabile, i minuti rallentati da pelle d'oca inarrestabile.
Ripenso ai sacrifici, allenamenti e le fatiche, al tempo dedicato alle discese, alle salite.
Nel cielo come
di gloria nello scrivere una nuova pagina di questa bella storia.
E corrono i minuti e scorrono i sentieri, avvolto dai tifosi, tifosi quelli veri.
Il battito che cresce, la fatica che mi stringe, voglio essere veloce come il vento che mi spinge.
Nel cielo.
Sul collo di chi mi sta dietro, tengo duro, non mollo, non mi guardo indietro.
Non mi fa paura, ma mi dà coraggio. Non è un avversario, ma un compagno di viaggio.
Il battito di mani, di due ali, di folla che mi porta all'arrivo, mi fa volare, non mi molla.
L'emozione che ti esalta, ti prende, ti conquista.
Ogni atleta apre mana, è un protagonista.
C'è.
Vous êtes bien sur 48 FM. Alors nous sommes dans l'émission L'Happy Hour. On vient de faire une pause musicale avec Come il vento, une chanson de 2017. Dites-nous, Mathilde Sagne, pourquoi avoir choisi cette chanson ?
En fait, c'était l'hymne qu'il y avait au championnat du monde de course de montagne qui se sont déroulés en Italie il y a sûrement maintenant 3 ou 4 ans. Je n'avais pas participé à ces championnats du monde, mais mon copain qui était américain à l'époque, vu que j'avais étudié aux États-Unis, il participait avec l'équipe américaine et j'étais allée le voir et l'encourager. Et c'était la première fois un peu que je rencontrais le monde du trail et de la montagne. Et cette ambiance-là de course qui est assez fantastique quand même, surtout que en Italie, ils sont vraiment forts pour mettre l'ambiance dans les courses. Et il y avait cette chanson qui passait un peu en boucle lors de la cérémonie d'après-course, tout ça. Et je me la suis souvent du coup écoutée en chanson de motivation avant-course ou... quand je faisais des séances à la maison.
Oui, c'est votre chanson fétiche un peu maintenant.
Un petit peu, oui. On peut dire ça comme ça.
Et est-ce que vous connaissez un peu les paroles? Qu'est-ce qu'elles racontent? Vous savez un petit peu ou pas du tout?
J'avoue, j'ai jamais essayé trop de la décortiquer comme il vento, enfin courir comme le vent un peu, j'imagine. Mais
c'est comme il vento, oui. C'est vient comme le vent.
D'accord. Après, j'ai pas fait d'analyse
sur la chanson.
Et est-ce que vous écoutez de la musique quand vous courez ou pas du tout? Justement, il y en a qui disent que ça les motive, enfin que ça les aide à trouver un rythme ou...
Non, quand je cours, j'en écoutais avant quand je m'entraînais à Toulouse et que je m'entraînais plus pour le cross, la piste et la route sur le bord du canal, j'allais souvent avec mes écouteurs. Mais depuis que je suis passée au trail, c'est vrai que je mets jamais de musique en courant. Je trouve que il y a vraiment déjà une harmonie avec la nature, souvent un peu des bruits extérieurs. Maintenant, quand je pars en courant plus, c'est toujours sans musique. Je peux mettre de la musique quand je fais des séances de home trainer, c'est l'équivalent de vélo d'appartement, on va dire. Des fois, l'hiver, c'est vrai que j'en fais de temps en temps en complément et pour un peu soulager les articulations. Et là, par contre, c'est l'inverse, je vais pas arriver à en faire sans musique.
D'accord.
Et justement, est-ce qu'on profite de la nature quand on va courir comme ça?
Oui, enfin... Après, d'une manière différente, c'est sûr que si qu'en randonnant plus tranquillement, mais non, il y a carrément quand même un contact, une relation avec la nature qui s'établit, je trouve. Après, on a des perceptions différentes de qu'on a quand on fait d'autres activités, et c'est aussi ça qui est bien, quand le sentier, on va le percevoir différemment si on le fait en marchant tranquillement, en courant, lors d'une séance où on est vraiment dans le dur, en VTT. Du coup, la même boucle, on peut, selon comment on l'a fait, on va l'apercevoir différemment et pas aussi apercevoir le même détail, forcément.
Vous avez beaucoup voyagé quand même avec le trail et vos études. Est-ce que quand vous courez, est-ce qu'il y a un endroit particulier que vous avez vraiment adoré, que vous avez vraiment aimé à travers tous ces voyages que vous avez faits?
Oula, la question est... C'est vrai que... J'ai couru dans pas mal d'endroits différents, ça serait compliqué de d'élire comme ça un endroit fétiche pour courir. Ce que j'aime bien, c'est la diversité, pouvoir changer. Non, j'ai pas comme ça du tac au tac, j'aurais pas d'endroit à dire.
Mais alors, vous allez aller dans un endroit que vous n'avez pas encore fait, c'est la Thaïlande, c'est ça, ou vous ne connaissez pas?
Oui, non, là je connais pas du tout ce qui est l'Asie, ouais. C'est tout nouveau.
D'accord, donc vous allez aller là-bas pour les mondiaux en février 2022, et c'était votre objectif un peu de l'année?
Oui, carrément. Normalement, les mondiaux doivent avoir lieu en novembre 2021, ça a été reporté de quelques mois avec le Covid, et c'est vrai que j'avais déjà porté le maillot de l'équipe de France pour la course en montagne lors des mondiaux en Patagonie il y a 2 ans. Et ça avait été une expérience vraiment fabuleuse. Quand cette année, les mondiaux sont 1 an sur 2. Donc quand je sais que c'était l'année des mondiaux, j'ai pas hésité. C'est même avant de regarder, j'ai envie de dire, la destination. Parce que je me suis renseignée il y a quelques semaines un peu sur ce qu'il y avait à voir en Thaïlande et tout ça. C'était... juste le fait de savoir qu'on peut porter le maillot de l'équipe de France et représenter son pays sur un championnat du monde, c'est fabuleux, je trouve. Donc c'est ça qui m'a motivée avant la destination. Puis après, là maintenant, j'avoue, j'ai regardé quelques photos sur la Thaïlande et on va dans les provinces du Nord plutôt, et ça a l'air magnifique, donc ce n'est qu'encore mieux.
Oui, et du coup, votre objectif, donc c'était d'aller en Thaïlande, maintenant c'est peut-être le podium?
C'est vrai que mon coach pense que je peux essayer de faire quelque chose au mondiaux, un podium, on n'en est pas à parler de ça, mais peut-être déjà en individuel, si aller chercher un top 10 en individuel, déjà je pense que ça serait très beau. Donc on va essayer de voilà, c'est même si ça peut paraître loin, c'est février. Voilà, on va entamer là j'ai fait la semaine de récup la semaine dernière, donc on va entamer une phase de préparation pour la Thaïlande, qui va sûrement commencer un peu par du court avec quelques crosses pour gagner en vitesse, reprendre en vitesse, et après voilà, la difficulté là de se préparer à la Thaïlande va être qu'il va faire chaud en février
oui,
là-bas.
Oui, oui, la météo c'est pas la même.
Donc voilà, il va falloir trouver des moyens pour se.
Bah, oui.
Il y a un classement par équipe justement, parce que là on parle de classement.
Et oui, et voilà, par équipe, je pense que donc les équipes sont pas tout à fait formées encore. Il y avait une dernière course de section le week-end dernier, mais je pense que souvent quand même en France il y a un bon niveau en trail, donc le podium va à mon avis être envisageable. Voilà. Surtout déjà Anaïs qui elle va viser le podium en individuel, donc ça va rapporter forcément beaucoup de points pour l'équipe. Voilà, c'est des équipes de 4, donc enfin voilà, ça commence déjà à bien se dessiner les équipes, et voilà, d'avoir à aller chercher le podium, voire le titre en équipe, c'est tout à fait envisageable, ça sera un des objectifs.
Ça se passe comment justement par équipe? C'est une course en elle-même par équipe, ou c'est les points en individuel qui comptent par équipe?
Voilà, c'est les points en individuel qui comptent en équipe. En fait, c'est la même course où tout le monde part sur la même course, et c'est en trail, on peut avoir jusqu'à 6 athlètes dans l'équipe, mais c'est que les quatre premières qui vont compter. Et donc après, je pense c'est l'équipe qui a le moins de points, c'est-à-dire qu'on est premier, on rapporte qu'un point entre guillemets, et enfin c'est voilà, c'est le classement de chaque personne du coup qui va faire le classement par équipe.
Et comment on finance ce genre d'épreuve là? C'est vous qui financez tout par vous-même, ou il y a la fédération qui aide?
On a beaucoup de chance avec la, enfin le trail est rattaché à la Fédération française d'athlétisme, la FFA. Et là on a, c'est all included comme on dirait quand on va en Patagonie ou là en Thaïlande, enfin qui sait comment Patagonie, voilà ce que on pense. Donc on a les billets d'avion qui sont compris, l'hébergement, voilà, souvent on part du coup une semaine, on va dire 4 jours avant pour s'acclimater, les 2 ou 3 jours de course, vu qu'il y a plusieurs événements. Et donc c'est vrai qu'on a rien à débourser, et on a aussi voilà quelques habits équipe de France pour pouvoir courir avec les maillots du club. C'est vrai que voilà, c'est assez rigolo parce que quand on compare à d'autres sports, on pourrait voilà se plaindre que il y a pas forcément d'argent à gagner à la clé ni quoi que ce soit, mais on peut aussi comparer à d'autres sports comme le raid, où ils doivent eux, pour aller au championnat du monde, débourser 1 000 ou 2 000 euros. Donc voilà, personnellement je pense qu'il faut pas, qu'on est quand même assez chanceux et qu'on n'a pas assez plaindre.
Vous avez un sponsor aussi ici français, qui c'est une marque de chaussures française, c'est ça?
Oui, voilà, je suis dans la team européenne Oka One One. Voilà, du coup, qui me fournissent en chaussures très généreusement, je dois dire. Donc c'est vrai que c'est un luxe de pas avoir à acheter ces paires de chaussures. Et ça permet aussi d'avoir une cohésion d'équipe. Voilà, par exemple la semaine de l'UTMB, on a dormi tous ensemble, on avait un chalet, voilà, ça sera, il y a 2 ou 3 événements par an où ils sont représentés, où on se regroupe. Donc c'est sympa.
Je voulais revenir sur la Thaïlande, parce que comment on fait est-ce que vous connaissez déjà le parcours ou pas?
Non, pas encore. Enfin, je pense que le profil est déjà en ligne sur Internet. Je n'ai pas encore étudié précisément.
D'accord. Parce que comment on fait pour transposer du coup un parcours de Thaïlande où il n'y a pas la même météo, c'est pas les mêmes conditions, en Lozère?
J'ai envie de dire sur la typographie, enfin les côtes, tout ça. Voilà, on voit que sur du trail, il y a forcément des montées, des descentes, et souvent un peu de plat. Donc voilà, c'est bien d'étudier un peu le parcours pour voir si ça sera plutôt des relances, donc beaucoup de petites bosses, ou une grande montée, une grande descente, en fonction un peu adapter les séances à ça. Et là, en Lozère, on a de la chance parce qu'on a un peu tous les terrains possibles. Voilà, si on veut des côtes vraiment raides, ben on va dans les gorges, on a des gros raidards. Si on veut des côtes plus longues, plus douces, le mont Lozère, enfin. Donc ça, c'est à peu près bon. Pour la météo, ça va être autre chose. L'équipe de France parlait d'envisager peut-être la mise en place d'un stage en Corse en janvier pour pouvoir voilà s'entraîner déjà là où il fait un peu plus chaud, même si voilà ça n'a rien à voir qu'à Thaïlande. Après, je pense que ça va être important d'arriver un peu à l'avance en Thaïlande. On n'a pas encore mis en place, enfin, une préparation spécifique. Peut-être, je sais qu'en, aux États-Unis, on s'était préparé pour une course aussi où il faisait chaud, au Colorado. Et du coup, on courait forcément avec des bonnets, enfin, surhabillés, on va dire, pour la saison, pour s'habituer à transpirer, oui. Donc là, peut-être, je sais pas, faire un peu de tapis, enfin, ou de vélo en salle et habiller plus que nécessaire pour. Mais bon, c'est que des suppositions. On n'a pas encore évoqué ça avec avec l'entraîneur, donc.
D'accord. Et où se situe la France dans les classements du trail? La France est plutôt bonne en trail, comment?
Oui, 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 carrément. On fait souvent des podiums, la France. Les autres pays qui vont être très bons, il y a l'Italie aussi. Se débrouille bien. Les États-Unis ont quelques très bons coureurs. La Suisse. Suisse, Espagne, ouais, voilà, on va être parmi les top, souvent on est dans les top 5.
D'accord. Et donc, il y a vraiment une cohésion d'équipe, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous allez partir en Thaïlande, partez en équipe,
oui,
il y a vraiment
On a, voilà, on a au moins un stage de préparation avant, qui se font d'habitude d'ailleurs dans le Cantal, assez proche d'ici. Là, s'ils le délocalisent encore, c'est justement, enfin, c'est assez, c'est une exception. Et oui, voilà, le monde, après, c'est vrai qu'on se retrouve souvent un peu le même groupe d'une sélection à l'autre, même si ça change, il y a un noyau dur. Donc, on finit par se connaître et, il y a une très bonne ambiance.
Alors, c'est l'heure de la chronique. On va faire la chronique sport avec Thibaut. Tu vas nous parler des résultats sportifs aujourd'hui.
Oui, en effet, parce que on a vu que les exploits lausériens se font nombreux ces dernières semaines. À commencer par notre invité du jour, Mathilde. Il y a également dans la même discipline Laurence Georges qui a performé sur l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'était il y a quelques semaines, ce week-end. Il s'en est fallu de peu même pour que les footballeurs de l'Avenir Foot Lausère réalisent un exploit à leur tour. Malheureusement, dans le cadre du quatrième tour de la Coupe de France, les joueurs de Maxime Tessier qui affrontaient l'Olympique d'Alès, donc c'est un club hiérarchiquement supérieur et qui évolue une division au-dessus de Mende, et bien ils ont été éliminés après avoir tenu la dragée haute au Gardois pendant 1h30. Ils ont dû s'incliner lors de la séance des tirs au but. Donc ils ont fait un partout à l'issue du temps réglementaire. Et même s'ils sortent un peu la tête haute de la compétition, on ne peut qu'imaginer que le scénario du match leur laissera quelques regrets légitimes quand on voit les occasions de fin de match qu'ils ont pu manquer. Dans la compétition reine des footballeurs amateurs, il n'y a donc plus que l'Entente Nord-Lozère comme représentant du département, puisque l'équipe de Saint-Chély a réussi à passer l'écueil Pierrefort en s'imposant 3-2 à l'extérieur. Donc c'est à noter parce que l'ENL, depuis le début de la compétition, ils jouent tous leurs matchs à l'extérieur. Donc c'est quand même un exploit d'arriver à passer tous ces tours. Loin de ses bases, sans public, ça reste des matchs difficiles à jouer. Donc celle-là, cette qualification, elle s'est dessinée dans les derniers instants de la rencontre et ça leur permet de rêver à une grosse affiche pour le prochain tour, avec des clubs de national qui vont rentrer, donc pourquoi pas espérer un gros club qui viendrait en Lozère. Ce serait un peu un juste retour des choses pour les joueurs qui font de grosses performances, même en championnat, de semaine en semaine. Après, il n'y avait pas que le club Ballon Rond qui était sur le pont pendant le week-end. Il y avait aussi les rugbymen qui reprenaient leur championnat de promotion d'honneur. Donc pour leur retour sur la pelouse de Delmas, les joueurs du RCML, ils ont fait honneur au public présent, puisque se sont imposés sur le score de 13-5 contre l'équipe de Trèbes. Donc c'est un match qui s'est joué un peu dans une ambiance électrique, parce qu'il y a eu des coups de tête qui ont été échangés un peu entre les joueurs, sous une pluie battante, mais qui aura souri aux Mandois. Donc ce genre de match, c'est parfois fondateur pour des saisons, donc c'est sûrement de bon augure pour la suite, à voir dès la deuxième journée ce que va donner le RCML dans son championnat. Et pour ce qui est des sports de salle, malheureusement, le proverbe « jamais 203 » ne s'appliquera pas, en tout cas pour les handballeuses du HBNL, parce qu'elles ont été battues sur leur parquet par l'équipe de Chamalières, sur la plus petite démarche 27-28, et même si elles menaient à la mi-temps, elles n'ont pas réussi à conserver leur avantage. Donc après deux victoires lors des deux premières rencontres, c'est un petit coup d'arrêt pour les filles dans leur championnat de N3, mais bon, si elles arrivent à rebondir dès la semaine prochaine, il n'y a pas de raison que ce championnat ne se passe pas bien, surtout que nul doute qu'après une défaite un peu frustrante sur ce score de 27-28, elles auront à cœur de repartir de l'avant. Enfin, pour terminer, pas de résultat, mais une annonce. Le seul club professionnel du département, le Mende Volley Lozère, va faire son retour ce week-end, face à Martigues, dans son gymnase de Piencourt, avec le retour du public. Donc c'est quand même aussi à noter. Après une saison historique marquée par une demi-finale d'accession et une préparation satisfaisante, le club espère vivre une saison dans la même veine que la précédente. avec le retour du public justement qui pourra les pousser, on ne peut qu'espérer de grandes performances. Justement, handball, foot, rugby, il y en avait un peu pour tous les goûts ce week-end. Mathilde, vous, est-ce que vous suivez un petit peu d'autres événements sport dans le département, peut-être les amateurs ou pas forcément, même les grands événements sportifs mondiaux, est-ce que ça vous arrive ou est-ce que vous restez exclusivement sur le trail?
J'avoue que je suis pas une référence dans le domaine du suivi des sports co. Voilà, ça va pas me déranger si voilà, on propose une sortie entre copains et que là enfin aller voir un match, je dirais oui, mais instinctivement, je suis pas trop à jour sur ça. C'est dommage parce que enfin il se passe des performances très très intéressantes aussi, mais c'est vrai que c'est dur d'être sur tous les tableaux en même temps et voilà, c'est voilà, des fois je par manque de temps, on va dire, je pas bien renseigné dessus.
Une question mais un peu globale sur le trail en général, est-ce qu'il y a un âge pour faire du trail et est-ce que à un moment donné il faut s'arrêter? Dites-nous un petit peu.
Mais c'est vrai que le trail c'est pas forcément une discipline jeune, on va dire. Mais ça peut commencer à se développer de plus en plus chez les jeunes. Là, par exemple, à Chanac, il y a eu la création l'an dernier d'une école de trail. Donc, à partir de 6 ans, je pense, c'est les Salta Bartas, voilà, qui est donc le club de Chanac, qui propose une séance hebdomadaire tous les samedis après-midi aux jeunes de 6 à 15 ans. Sur Mende, il y a également le col, le centre omnisport Lozère, qui a ouvert une section trail un peu plus axé compétition, voilà, et donc là pour les collégiens et lycéens. Et après, limite d'âge, il y en a pas. Ce qui est, moi je trouve fantastique d'arriver à avoir des personnes 70, 80 ans qui même des fois arrivent à finir des ultras. C'est vraiment impressionnant. Voilà, certains vont dire que la course à pied ça maintient en forme. Après, il faut pas se cacher qu'aussi on voit beaucoup de personnes qui voilà, qui sont maintenant bénévoles, choses comme ça, qui ont beaucoup couru dans leur jeunesse et qui disent que voilà, maintenant problème de genoux, d'articulation et qui peuvent plus faire de la course, donc ils sont passés à la marche ou au vélo. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un sport assez traumatisant. Donc c'est pour ça que c'est important de le faire, on va dire, essayer de le faire comme il faut. Donc voilà, parce que bon, comme tous les sports, il y a un côté addictif évidemment, mais voilà, même quand on est en forme, il faut essayer de pas trop en faire. Faire du renforcement à côté, des étirements, ça peut aider à prévenir les blessures et à aménager le corps et un peu d'alternative. Donc voilà, le vélo par exemple, l'été j'essaye de varier avec le vélo. Ou là cet hiver on a eu la chance, on a pu faire quelques sorties de ski de fond en Lozère aussi, c'était le top, ça pour faire travailler le cardio sans impact sur les muscles.
Justement, ces dernières années là, on parle de plus en plus de sport nature. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait un engouement justement par rapport au trail? Il y a plus de personnes qui s'inscrivent sur les courses, il y a plus de monde sur les courses ou pour venir les regarder, je sais pas.
Après, moi personnellement, en fait, j'ai pas trop de recul vu que ça fait que 2 ans et demi que j'y suis sur voilà sur cette caté sur ce sport-là. Mais c'est vrai que c'est le nombre de personnes aux courses est vraiment impressionnant. Le nombre de courses aussi proposées qu'il y a est énorme. Il y a des courses. Il doit y avoir, je pense, 50 courses en France tous les week-ends au moins. Donc, enfin, voilà, c'est vraiment impressionnant. Quand on voit l'ambiance qu'il peut y avoir à la semaine de l'UTMB, qui est un des plus grands, voilà, festivals de trail en France, où il y a, voilà, même les ultra-trailers qui arrivent toute la nuit et qui sont applaudis en H24. C'est assez impressionnant et c'est beau, ouais, toute cette communauté qui s'est créée autour du trail. Après, est-ce qu'elle a été grandissante? Moi, vu que je suis que depuis 2 ans, pas assez de recul pour le dire.
Des conseils pour les amateurs, vous l'avez déjà un peu évoqué, si on fait de la course à pied sur route, mais on a envie de s'essayer au trail, quels sont les premiers conseils que vous pouvez donner?
Aller sur les sentiers qui donnent envie, voilà, pas se dire il faut que j'aille là parce que les trailers disent que c'est le spot à faire. Essayer de suivre ses envies. Et voilà, commencer avec des dénivelés, parce que plus dur, souvent quand on n'est pas habitué au trail, c'est le dénivelé. Donc commencer progressivement avec des dénivelés de 200, 300 mètres. Et voilà, après augmenter progressivement.
Les chemins en Lozère, justement, qui sont propices pour les amateurs qui veulent commencer et découvrir le trail, c'est quoi?
Il peut y avoir un peu partout, hein. Par exemple la Margeride, c'est des pistes, donc ça reste du trail, mais pas du tout technique et voilà, avec du dénivelé pas abrupt. Donc ça peut être bien pour un débutant. Après même de chaque point de départ, on va dire, et on peut choisir des versions raides souvent ou des versions plus simples. Ça va justement être le but des itinéraires trail qui vont être créés très prochainement. C'est que d'un même point de départ, il va y avoir des itinéraires verts pour les débutants et rouges pour les plus confirmés, ce qui permettra à tout le monde de s'entraîner.
Je crois que même les meilleurs, ils marchent dans les grosses montées, donc faut peut-être pas aussi avoir
oui,
peur.
Oui, voilà, tout à fait. Un trail, c'est la montagne qui décide du rythme et pas nous qui décidons de notre rythme. Voilà, sur des courses, bon, pas forcément un format 8 km, mais sur des formats à partir de 15-20 km. Quand c'est très raide, on se fatigue souvent moins de marcher dans les parties très raides. Voilà, pas sur longtemps, mais sur quelques dizaines, centaines de mètres. Donc, il faut voilà être à l'écoute de son corps, du terrain. Et après, chaque personne est différente aussi. Certains vont être plus à l'aise en marchant rapide, d'autres en courant très doucement. Être à l'écoute de son corps.
On va passer à la chronique actu de Mélissa. Tu nous as préparé un petit quiz pour aujourd'hui.
Oui, alors un petit quiz pour revenir un petit peu sur les affaires qui ont marqué l'actualité nationale ces derniers jours. Donc, première question, quel homme politique a été condamné la semaine dernière à de la prison ferme ?
Oula, compliqué.
Il y en a tellement.
Bon, celui dont moi je parle, c'est donc Nicolas Sarkozy. Parce qu'après le procès qui avait débuté en mai, le verdict est tombé dans l'affaire Big Malion. Jeudi, l'ancien président de la République a été condamné à 1 an de prison. Il a été reconnu coupable en première instance de financement illégal de campagne électorale. Pour résumer l'affaire, un système de fausses factures aurait été mis en place par l'agence de communication Big Malion et par l'UMP. Le but était de masquer les dépassements de frais de campagne de Nicolas Sarkozy. Ces frais étaient plafonnés par la loi à 22,5 millions d'euros et la campagne en aurait coûté 40. Les magistrats ont considéré que le candidat avait poursuivi l'organisation de meetings et ce, malgré des avertissements écrits du risque de dépasser ce plafond. 44 meetings ont en effet été organisés pendant la campagne, dont l'un aurait coûté à lui seul 1,8 million d'euros. L'ancien président a annoncé qu'il ferait appel de la décision. Alors à l'époque, l'affaire avait eu un retentissement au niveau départemental. Sur le banc des accusés, parmi les 14 prévenus, figure Guillaume Lambert, le directeur de campagne de Sarkozy. Guillaume Lambert était préfet de Lozère de juillet 2013 à avril 2015. Il était donc en fonction lorsque l'affaire a éclaté. Fin janvier 2015, son bureau à la préfecture de Lozère avait même été perquisitionné. Il a été condamné à 3 ans et demi de prison, dont 2 avec sursis. Alors passons à la deuxième question. Quel est le point commun entre Shakira, Tony Blair et le roi de Jordanie?
Compliqué.
On dirait, oui. Par rapport au Pandora Papers.
Exactement, oui. Ils sont tous les trois mis en cause dans les révélations de Pandora Papers. 600 journalistes d'une centaine de pays ont épluché pendant plusieurs mois des documents provenant de cabinets spécialisés dans la création de comptes offshore. Et les conclusions sont sans appel. Des dizaines de chefs d'État, de ministres ou de milliardaires auraient profité de montages financiers à des fins d'évasion fiscale. En France, le nom de l'ancien ministre socialiste Dominique Strauss-Kahn apparaît dans les documents consultés. Il aurait fait transiter plusieurs millions de dollars par une société marocaine pour ne pas avoir à payer d'impôts. Enfin, dernière question. Qui chantait dans les années 80 « Réussir sa vie, c'est d'abord choisir, c'est d'avoir envie de tout devenir ».
Léonard.
Donc c'était bien Bernard Tapie. L'homme d'affaires est décédé ce dimanche à 78 ans des suites d'un cancer. La mort de l'homme aux mille vies, pardon, a fait la une des journaux hier. Député, ministre, chanteur, acteur, repreneur d'entreprise, Bernard Tapie aura effectivement assouvi son souhait de tout devenir. Il s'était construit une image d'homme qui a réussi en partant de rien. Les hommages se sont succédés, saluant son courage et sa force face à la maladie. Mais les nécrologies publiées rappellent aussi que la vie de Bernard Tapie a été marquée par des scandales financiers. Citons par exemple l'affaire de corruption VAOM, pour laquelle il a fait plusieurs mois de prison, mais aussi l'affaire du Fosséa, où il a été condamné pour fraude fiscale, l'affaire des comptes de l'OM, ou plus récemment, l'affaire du Crédit Lyonnais.
Eh ben, merci beaucoup, Mélissa, pour cette chronique actu. Et on va terminer cette émission avec une chronique théâtre avec Cyril. Salut Cyril.
Oui, bah salut tout le monde. Alors aujourd'hui, pour mon premier billet d'humeur, j'ai décidé de parler d'un sujet que j'adore, donc le théâtre. Et justement, le week-end dernier, il y avait le spectacle Héroïne de la compagnie des Arts aux Heures. J'insiste sur le jeu de mots pour être bien clair. Et c'était à l'espace Georges Fraîche. Alors ok, c'est pas du tout une salle de théâtre, mais j'y reviendrai plus tard. Avant toute chose, je tiens à dire que la durée du spectacle est d'environ 4h30, ce qui est pas mal du tout. Rien que ça déjà, pour les acteurs, c'est une sacrée performance. Et nous, d'un point de vue public, je peux vous assurer qu'on ne voit absolument pas le temps passer. Ça dégage une ambiance, comme si la pièce se réinventait souvent. Il y a aussi un mélange des arts. Il y a des moments de chant, de danse. Le décor de la salle, qui est au départ seulement quelques vitres, finissent par être entièrement couvertes de dessins à la peinture. J'en profite pour dire que ces moments de danse sont à l'image de la pièce. C'est-à-dire que des fois, on veut juste aller danser avec les acteurs et des fois, c'est d'un doux amer tellement puissant qu'on comprend qu'il n'y a pas besoin de mots pour exprimer ce que les personnages ressentent. Héroïne, donc, ça parle d'une femme qui se rend au tribunal pendant 59 jours pour voir l'envers du décor des palais de justice et des audiences. Et pendant ces 4h30, on assiste à plusieurs affaires, affaires conjugales, des casseurs pendant des manifestations, des parents voulant revoir leurs enfants en voyant garde à vue, etc. Je tiens d'ailleurs à préciser que toutes les histoires sont authentiques, aussi incroyables que ça puisse paraître. Parce que oui, la troupe s'intéresse beaucoup à la thématique de la justice et de l'injustice sous plusieurs formes, notamment avec du théâtre de rue. Alors je le conçois, vu comme ça, ça a l'air d'être un spectacle très lourd, très grave, mais en réalité, on y passe vraiment par plein d'émotions. C'est magnifique, c'est drôle, et puis l'instant d'après, la réalité vous pique et vous fait frissonner. D'ailleurs, moi-même, j'avoue, j'ai été au bord des larmes. C'est vraiment prenant, et évidemment, ça contribue au fait qu'on ne voit pas passer les 4h30. Il y a en plus des moments d'improvisation qui sont vraiment excellents, sans oublier que la représentation est très vivante. Au bout d'un moment, on ne sait juste plus où donner de la tête. J'avais dit que je parlerais de nouveau de l'espace où la pièce est jouée, donc nous y voilà. L'espace Georges Fraîche n'est donc pas une salle de spectacle, donc l'acoustique, entre autres, n'est absolument pas faite pour ce genre d'événement. Et pourtant, les comédiens portent si bien leur voix qu'à aucun moment je me suis senti perdu. Et j'ai d'ailleurs pu parler avec Perrine, qui est l'une des actrices de cette troupe qui existe depuis 20 ans pile, qui m'a confié qu'elle a été happée par l'univers de la justice. Et l'idée lui est donc venue en étant avec une avocate de Montpellier pendant 14 mois, donc plus d'un an. Et elle a tenu un carnet pendant ce temps qu'elle a présenté à sa troupe. Puis ils ont fait des impros pendant un an et demi avec ça comme base. Donc si je vous ai donné envie d'aller voir leur spectacle malgré les 4h30, eh bien déjà merci, ça me fait très plaisir. Mais surtout n'hésitez pas à aller sur leur site officiel, lesarroseurs.org, tout attaché. Et là-bas vous pourrez donc y voir toutes leurs prochaines dates, car oui c'est actuellement la fin de leur saison. Mais ils comptent bien revenir en 2022 avec une tournée un petit peu partout en France. On va donc croiser les doigts pour qu'il repasse en Lozère. Enfin voilà, heureusement ma chronique n'a pas fait 4h30, mais peut-être 4h30 avec de la chance.
4 minutes plutôt.
4 minutes, merci. C'est vrai que finalement c'est un peu pareil. En tout cas, 4 minutes 30, j'estime que c'est déjà pas mal. En tout cas, bonne journée tout le monde et n'oubliez pas que si ça ne va pas aujourd'hui, ça ira sûrement mieux demain. Bye.
Merci Cyril, on va finir cette émission, cette première émission. Merci Mathilde Sang d'être venue parmi nous.
Avec plaisir, merci beaucoup à vous pour l'invitation.
Merci et puis merci à tous les chroniqueurs évidemment. Vous pouvez écouter Happy Hour en podcast sur 48FM. L'émission sera rediffusée jeudi à 19h. On se retrouve donc dans 2 semaines. Salut à tous et on termine donc cette émission avec une chanson, John Baptiste, Freedom.
You're shining, you're shining.
Everybody come on, everybody
come on now.
Everybody.
I'm stuck to the dance floor with the whole team. With the whole team.
Let me see you wobble.
I'm stuck to the dance floor with the whole team. With the whole team.
Let me see you shake.
You're giving me the effort, giving you the whole shit. I'ma give you the whole shit.
Let me see you wobble.
I'm stuck to the dance floor with the whole team. With the whole team.
Can you make it break?
Qu'on soit alcoolique en France.
Chronique, il y a toujours une bonne bouteille sur la table, ça c'est évident.
Revue de presse.
C'est pas pour ça qu'on est alcoolique.
Invité du jour.
Et puis la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé.
C'est tout de suite dans l'Happy Hour.
At the Happy Hour. At the Happy Hour.